C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
Bon, alors, deux nouvelles qui concernent la STM. C'est d'abord l'explosion des coûts de construction, rénovation là du garage Bellechasse. Ça double. Également, des retards aussi qu'on note, surtout en septembre. Il paraît que ça va un peu mieux. Mais donc, la ponctualité des autobus n'est pas au rendez-vous. Alors, la question qui est méchante, est-ce que la STM a perdu le contrôle? Nathalie?
La réponse va être méchante aussi, Paul. Oui, j'ai dit que oui, la STM a perdu le contrôle sur la construction des coûts liés à son garage de Bellechasse. La STM a perdu aussi le contrôle sur la satisfaction des usagers concernant le service de bus. Comment pourrait-il en être autrement? Écoute, tu parles d'explosion de coûts, là. On est passé d'un coût de 254 millions à 370. On révise aujourd'hui à nouveau un coût qui pourrait s'établir à 584 millions. Il se pourrait qu'à la fin de l'exercice, peut-être que le coût pourrait atteindre 600 millions de dollars. Écoutez, ça va coûter plus cher à construire un garage pour loger 300 autobus que ça a coûté pour construire le centre Vidéotron au Québec qui loge 18 000 places. Là, faut le faire. Là, je comprends qu'il y a des enjeux liés à l'intégration urbaine. Je comprends qu'il y a des enjeux liés à la densité du secteur. C'est un magnifique garage qui ressemble davantage à un stade. Il est de forme curviligne. J'ai appris un nouveau mot hier en faisant mes recherches. Curviligne, c'est un bâtiment de forme circulaire, souterrain. D'ailleurs, c'est le premier du genre en Amérique du Nord. On est très fort là-dessus, nous autres. Hein? On va être les meilleurs là, sur la planète. On va être les meilleurs en Amérique du Nord. Think big. Ça pourrait être le slogan de la STM pour ce qui est de la construction des centres de transport. J'ai rien contre, mais honnêtement, il y a des étapes là, qui ont manqué. D'ailleurs, on le reconnaît à la STM. Les études de préfaisabilité n'ont pas révélé toutes les informations qui auraient été nécessaires pour éviter cette explosion de coûts. Pour ce qui est de la satisfaction des usagers du réseau de transport de la STM, du réseau de bus en particulier, je faisais une petite recherche et j'ai comparé les rapports d'activité de 2016 entre 2016 et 2021. En 2000, je vais prendre 2017, tenez, c'est plus proche de nous, là. 84% c'était le taux de satisfaction pour ceux et celles qui empruntent les bus de la STM. En 2021, 66%. Et depuis 5-6 ans, là, le taux de satisfaction général, le taux de satisfaction pour ce qui est de l'utilisation des bus est en constante diminution. Alors, c'est pas perdre le contrôle, là. Dites-moi ce que c'est.
Luc? Ben, moi, je trouve que c'est un prix extraordinairement trop élevé, là. C'est gigantesque. Quand faut que tu compares avec du comparable, tu sais, combien ça coûte, par exemple, la grande bibliothèque a coûté 100 millions. Elle devait coûter 80. Après ça, il y a eu des dépassements de coûts. Et là, quand tu étais rendu à 100 millions puis qu'il y avait encore des coûts supplémentaires, le gouvernement a dit, OK, on va la finir avec des matériaux moins nobles. Fait qu'on l'a recouverte de tôle puis de verre au lieu de bronze puis de bois. Puis ça a l'air de quoi? Ça a l'air d'un gros future shop. Et même chose avec l'UQAM. L'UQAM, là, ça devait être, dans l'esprit du créateur, ça devait être une moraine, une roche qui sort du sol, un peu comparable au Mont-Royal, à qui il répondrait. Et donc, devait être tout en pierre avec des petites ouvertures, etc. C'était comme un monolithe de roche. Puis là, on s'est rendu compte que le prix était trop élevé. Fait que là, à la dernière minute, on l'a recouvert de briques à la place de roche. Puis là, ça a complètement changé le concept. Puis évidemment, la brique, ça t'offre moins que la roche. Alors il a fallu refaire la brique 35 ans plus tard. Donc, quand tu compares des comparables, tu dis c'est trop cher. Sauf que il fonctionne avec des lois et des règlements. La STM, comme n'importe quel constructeur au Québec. Et là, ce projet-là conjugue trois domaines de réglementation pour lesquels les constructeurs, les promoteurs, les entrepreneurs ont toute l'attitude pour faire exploser les coûts. Première chose, l'excavation. J'ai jamais rencontré un projet où il y a de l'excavation en profondeur qui se termine au coût évalué, même si le coût évalué prend en compte des marges très importantes. C'est toujours au-delà d'une marge, largement au-delà des marges, puis des fois, c'est doublement, triplement de ce que tu avais prévu, parce que c'est une industrie qui est viciée. Les terres contaminées, Donc, tu fais des, de la manière que ça fonctionne, tu fais du carottage. Tu vas aller faire des prises de terre. Tu vas aller sonder la terre très profondément dans le sol, mettons à tous les 10 mètres, pour savoir si de la terre est contaminée. Bizarrement, il y en a toujours plus que ce que tu avais évalué, quel que soit le carottage que tu fasses. Deuxièmement, la capacité portante du sol. Un projet comme le garage, c'est un projet qui doit être construit sur le roc. Il s'appuie sur le roc. Faut que tu creuses jusqu'à temps que tu arrives au roc. Quand ils sont arrivés au roc, c'était l'argile, c'était de la pierre friable, du shale en anglais. Ça s'appelle quelque chose argileuse en français. Et donc, là, il a fallu solidifier le sol. D'ailleurs, comme on l'avait fait pour le stade olympique, en structurant le sol. Ça, c'est le premier domaine, l'excavation. Le deuxième domaine, puis ça, là, les gens ne comprennent pas ça, là. Puis il faut vraiment l'expliquer, là. On n'a pas d'outils pour faire face à des dépassements de coûts. C'est comme David contre Goliath. C'est comme si tu avais un slingshot quand t'es une municipalité puis que tu fais face à quelqu'un qui augmente sans arrêt les coûts. Là, tu n'as aucun moyen pour l'arrêter. Le gars peut te mettre n'importe quel addenda de « Ah oui, ça a coûté plus cher pour ci, ça a coûté plus cher pour ça, on n'a pas trouvé le métal, finalement, il a fallu qu'on restructure tel coin. » Les autres, ils ont une équipe, là. Ils ont des équipes puis d'architectes, puis d'ingénieurs, puis ils travaillent juste là-dessus. Augmenter les coûts.
Non, Luc, je regrette, mais on a un outil, ça s'appelle les études de préfaisabilité, ça s'appelle la planification.
Nathalie, montre-moi une étude de préfaisabilité qui a empêché un projet au-delà de 100 millions, là, qui a empêché au-delà de 100 millions d'arriver. C'est tellement rare. C'est une fois sur 10, je pense.
Oui, mais on a un méchant problème. Ça donne quoi de planifier un projet, de mener des études qui coûtent des millions, voire des dizaines de millions, et d'arriver à un résultat comme celui auquel on est confronté. Moi, j'appelle ça un désastre sur le plan financier, là. Tu as reçu la directrice de la STM un peu plus tôt, Paul. Je comprends qu'elle a donné tous les arguments du monde pour laisser entendre que non, il n'y avait pas perdu le contrôle. Elle a même évoqué la possibilité de poursuivre l'entreprise qui a procédé à ses études de préfaisabilité.
OK, mais regarde, je te donne un cas concret. Elle a parlé de l'excavation. Mais je te donne un cas concret quand il y a des dépassements de coûts autrement que l'excavation. Grand parc. Je peux pas donner le cas concret, on va se faire poursuivre. En tout cas, imagine-toi un projet là, où on fait une évaluation et on se rend compte que l'entrepreneur nous faut bien raide. Sais-tu qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça arrête? Faut que tu arrêtes le contrat. Là, automatiquement, tu t'en vas en cours. Là, faut que tu mettes une équipe de juristes là-dessus parce que lui, il va te poursuivre pour des millions de dollars. Ça, c'est A. Puis tu risques de les perdre. Fait que faut que tu les mettes de côté. Ça, c'est A. Puis B, faut que tu refasses une évaluation des travaux qui ont été faits à ce jour. Donc, une équipe d'évaluation qui s'en va sur place. Ouais, il a posé 2x2x4, mais celui-là, il sera pas bon. Ça fait 6 mois qu'il l'a posé. Il y a plus de dessus, il est plus bon, etc. Puis là, tu fais une évaluation. Après ça, tu refais un autre appel d'offres pour venir compléter les travaux du premier. Puis là, dans l'appel d'offres, vous venez compléter les travaux du premier, tu vas le donner à une autre entreprise qui, elle, automatiquement, va t'arriver en disant il y a des surcoûts, l'évaluation des travaux en cours avait été mal faite. Puis t'arrives en bout de ligne avec une facture aussi grosse.
Mais ce que tu dis est sans doute vrai pour métro, hôpitaux, écoles.
Tout!
Ce que tu es en train de me dire là, c'est pas strictement la STM. Là.
Exactement.
Nathalie?
Mais est-ce qu'on a un problème de compétence à ce point généralisé au Québec? Deuxièmement...
D'abus,
oui, peut-être, parce que lorsqu'on construit pour le gouvernement une société publique, oui, t'as raison, des fois, on pèse un peu, les entrepreneurs ont tendance à appuyer un peu trop fort sur le crayon. Il y a les processus d'appel d'offres aussi, qui parfois ne sont pas tout à fait adaptés. Il n'est pas question de parler des maisons des aînés aujourd'hui, mais peut-être qu'on en parlera un jour, parce que le gouvernement n'arrête pas de dire que c'est à cause de la pénurie de main-d'œuvre puis l'augmentation du coût des matériaux, mais il y a peut-être aussi la façon dont on a lancé les appels d'offres qui explique l'explosion des coûts pour les maisons des aînés, mais ça sera un autre dossier. Je veux revenir à ce dossier qui est épouvantable, parce que je comprends qu'il faut avoir de l'ambition là pour ce qui est du transport en commun, mais on ne peut pas collectivement payer des prix comme ceux-là et penser qu'on va révolutionner le transport en commun au Québec là. Écoutez, un seul centre de service va coûter presque 600 millions de dollars. C'est énorme, mais ça n'a aucun bon sens. Et pendant ce temps-là, il y a un autobus sur quatre qui est en retard sur le réseau de la STM. Tu dis, attends une minute, là, on veut avoir le nec plus ultra en matière.
Oui, mais Nathalie, tu viens de le dire, maison des aînés, c'est pareil, école, c'est pareil, hôpitaux, c'est pareil.
On a un méchant problème.
C'est ça qu'on a un méchant. Une autre affaire. Oui. Les expropriations. Hey, les expropriations au Québec, c'est une joke. C'est un bar ouvert, c'est un buffet. À chaque fois que tu fais une expropriation, ça coûte la valeur propriétaire, c'est-à-dire la valeur que le propriétaire évalue qu'il aurait eu si jamais il avait fait un projet de condo 1000 étages de haut avec de luxe. C'est tout le temps ça. C'est tout le temps ça. Ça n'a aucun maudit bon sens. On est la seule province comme ça. Puis le gouvernement dort au gaz sur les expropriations.
Voilà pour le volet construction immobilier et autres sujets connexes. Au retour, la semaine de travail de 4 jours. Es-tu en train de rêver à ça, toi, là? Je t'imagine.
Non, c'est, moi, c'est 4 fois 20 minutes.
OK, mais tu prendrais-tu le lundi ou le vendredi off? On va en parler tantôt.
La commission Normando-Ferrandaise.
Bon, est-ce que le concept de la semaine de 4 jours de travail reste pertinent, surtout qu'il y a, bon, un environnement avec pénurie de main-d'œuvre, puis encore quand même pas mal de télétravail? Luc?
Bon, ça, il faut le voir dans un contexte particulier. Vous m'excuserez, aujourd'hui, c'est deux fois indignation en une seule journée. Le contexte particulier, bon, premièrement, le télétravail. Tu sais, tu peux pas conjuguer télétravail puis semaine de 4 jours. Tu peux pas. Et la semaine de 4 jours, faut que ça soit un contrepoids à ceux qui ne peuvent pas faire de télétravail. Il faut remettre un peu d'équilibre. J'en parlais avec un directeur syndical qui me disait, ouais, ouais, télétravail, là, un instant, là, il va falloir qu'il nous donne de l'argent pour, qu'il prenne en considération qu'on est obligé de payer notre bureau, c'est notre ordinateur, c'est notre chauffage, ça coûte plus cher l'électricité. Attends, il y a des syndicats qui sont partis dans cette direction-là, là. On a non seulement le télétravail, on va ajouter la semaine de 4 jours, on va exiger aussi un remboursement pour nos frais de maison. Non. À un moment donné, il faut rétablir l'équilibre. Là. Ceux qui sont à pied d'œuvre, les infirmières, les enseignants, les employés de la construction, qui se tapent le trafic, etc., il faut leur donner quelque chose. Puis s'il y a quelque chose là, à mon avis, ça devrait être la semaine de 4 jours. La semaine de 4 jours, il faut faire attention, il y a 2 types de semaine de 4 jours. Tu as la semaine de 4 jours temps compressé ou la semaine de 4 jours temps réduit. Temps réduit, c'est que tu passes à 36, 32 ou même 28 heures de travail. Il y a même des États qui ont essayé 24 heures de travail par semaine. Et temps compressé, c'est que tu fais le même nombre d'heures qu'avant, mais tu le compresses en 4 jours. Et ça, c'est 2 choses différentes. Puis le gouvernement, il faut qu'il fasse très attention dans sa vérification de ça. Est-ce que c'est du temps compressé ou du temps réduit? L'autre affaire, c'est que il faut se dire que les pays où ça a marché, des pays très particuliers, là, Islande, c'est le pays où ça a fonctionné le mieux. Les 2 autres essais qui ont été faits, Finlande, Japon, parce qu'il y a des essais qui ont été faits partout dans le monde. Mais là où ça, Finlande a dit, nous autres, on y va, on avance, finalement, ils ont reculé. Japon, ils ont fait un test, puis ils ont eu une augmentation de la productivité, parce qu'ils disent, les employés pouvaient se servir de la 4e journée pour faire leur rendez-vous santé, leur rendez-vous pour les enfants, toutes sortes d'affaires, des fois des week-ends de 3 jours, etc. Mais c'est le Japon. Le Japon, donc, mesure de la performance, totale. Si t'as pas une mesure de la performance, puis tu mets la semaine de 4 jours, tu sais pas si ta performance en bout de ligne va être importante. Et c'est là que j'en viens à l'aspect indignation. Il faut pas oublier qu'au Québec, puis Dieu sait que j'aime le Québec, puis que je veux qu'il évolue, puis tout, là, les champions mondiaux de la productivité relative.
Nous autres, de la productivité relative.
Ouais, nous autres,
c'est important.
C'est-à-dire que c'est si on peut-tu travailler un petit peu moins, en règle générale, je dis pas que tout le monde, la moyenne, si on peut-tu travailler moins, on va le faire. Dans toutes les statistiques, là, taux d'activité, taux d'emploi, heures travaillées, âge moyen de la retraite, salaire, productivité, absentéisme, on est les champions. On est les champions, on est les champions. Parce que ben, ça c'est au niveau... Mais maintenant, après ça, là, regardez dans vos familles, autour de vous, là, si vous croyez pas les statistiques, là, y a-t-il quelqu'un qui est venu vous voir dans un party pour vous dire « Hey, je suis assez content, je travaille à DPJ, là, puis on a réussi à traiter plus de cas. » Ou moi, je travaille dans tel domaine, puis on est en équipe, on est arrivé à augmenter notre performance. Ou plutôt, ça c'est scénario 1. Scénario 2, c'est « Hey, je suis content. » Avant, là, je travaillais 4 jours. Maintenant, j'arrive à le faire en 3 jours et demi. Puis là, j'ai réussi à faire ci, puis ça. Puis ça marche mieux. Puis en plus, je suis capable de facturer telle affaire. Posez-vous la question. Moi, je ne donne pas la réponse, posez-vous la question.
Nathalie?
Non, mais Luc, c'est pas parce que tu travailles moins que tu es moins productif. Dans les expériences qui ont été menées sur la planète, la Grèce, qui est un des pays où on a le plus nombre d'heures semaine au travail, c'est le pays où le taux de productivité est le moins élevé. Donc ça, c'est un des éléments
et
qui
où l'évasion fiscale est pas mal dans le tapis.
Ouais, mais y a-tu vu les plages qui ont aussi?
Mais non, je sais.
Non, mais on pourrait parler d'évasion fiscale aussi au Québec, là, le travail au noir, puis les paradis fiscaux,
quand je suis allé sur une des îles, le maire avait été arrêté pour corruption. C'était une affaire de location de chaises de plage. Il y avait une ristourne, il avait donné le coup.
Ben, ouais,
non, mais c'était n'importe quoi, là.
Mais au moment de son arrestation, il était sur une des chaises de plage.
Non, mais qui un jour n'a pas rêvé à la semaine de 4 jours? C'est un beau sujet là pour partir dans nos dans nos pensées, dans nos rêveries ce matin. Mais malheureusement, pour un grand nombre de travailleurs au Québec, la semaine de 4 jours, c'est l'équivalent d'un mirage. Tu l'as dit, Luc, il y a des secteurs d'activité là où on ne peut imaginer un jour réduire le temps de travail à 4 jours. Bon, il y a la construction, entre autres, tous les métiers liés au secteur manufacturier. Mais j'ai fait un exercice de mémoire hier et je me suis rappelé qu'en 2003, durant la campagne électorale de 2003, printemps 2003, Bernard Landry, qui était chef du Parti québécois, promettait la semaine de 4 jours, tenez-vous bien, pour le 1er janvier 2004.
Oh.
On est aujourd'hui, oui, en 2022 et on parle encore, en fait, on poursuit cette discussion entamée il y a quelques années sur la pertinence ou non de la semaine de 4 jours. Et ce qu'il proposait à l'époque, c'est d'obliger les entreprises, de contraindre les entreprises à imposer la semaine de 4 jours pour les parents dont les enfants étaient âgés de 12 ans et moins. L'objectif étant de favoriser une meilleure conciliation travail-famille. À l'époque, on évaluait la mesure à 100 millions de dollars. Le patronat l'évaluait à ce moment-là entre 2 et 300 millions. Aujourd'hui, le patronat commence à mettre un peu plus d'eau dans son vin en se montrant un peu plus ouvert qu'il y a quoi maintenant, presque 20 ans, à cette idée de la semaine de 4 jours. Donc, ça date pas d'hier, le fait de réduire nos heures travaillées en changeant le mode d'organisation à l'intérieur des entreprises. Et certaines entreprises le font, là. Tu parlais des expériences dans le monde, mais au Québec, là, la CSN-FTQ pour les employés de bureau, la Fondation David Suzuki, plusieurs entreprises qui sont dans le domaine des technologies de l'information le font également, parce que la semaine de 4 jours, ça devient un élément d'attraction pour le personnel. Mais en même temps, moi, je pense qu'il faut résister à cette idée d'en faire une norme. C'est ce que les jeunes libéraux ont proposé l'année dernière, je crois, d'amender la loi sur les normes du travail et de faire de la semaine de 4 jours une norme pour contraindre les entreprises, comme souhaitait le faire le Parti québécois il y a près de 20 ans, à adopter ce mode d'organisation. Moi, je pense que ça prend en 2022 pour nos entrepreneurs parce qu'on oublie souvent le point de vue des entrepreneurs qui, eux, se cassent la tête. Il n'y a pas un entrepreneur au Québec là qui travaille 4 jours semaine. Ils travaillent, mon Dieu, comme des fous à essayer de garder en vie leur entreprise. Alors, ça prend de la flexibilité, de la souplesse aujourd'hui.
Mais tu vois, j'ai un sondage ce matin qui montre que les Québécois plus heureux au travail que le reste du Canada.
Ah ben ça, c'est sûr.
87% des Québécois croient que leur travail doit leur apporter plus qu'un chèque de paye.
Ça, c'est bon, ouais. C'est bon, c'est bon.
58% disent que le bien-être et le bonheur des employés sont un gage de réussite pour l'entreprise. Donc, 4 jours par semaine, peut-être. Mm-hmm. Et il y a quand même 31% des Québécois qui se disent stressés la plupart du temps au travail.
Ah, quand même.
Bon.
Mais moi, je pense que...
Le télétravail contribue certainement à diminuer le stress, là.
Qu'est-ce que tu dis? Excuse-moi, je t'ai coupé.
J'ai dit le télétravail contribue certainement à diminuer le stress. Et pour un commentaire rapide, Luc, sur le sondage de Paul, c'est au Canada... le Québec et la province au Canada, on travaille le moins d'heures dans une semaine.
C'est pour ça qu'on est heureux au travail.
Un homme qui ne travaille pas 20 heures par jour, il mérite bonne vie.
Mais remarque, moi, j'étais un peu comme ça quand j'étais employeur. Quand j'étais boss, là, je disais à 17h, quelqu'un me dit, je m'en vais à la maison. Je dis, ah, tu prends ton après-midi off?
T'es un patron difficile, t'es un patron pas commode, c'est ce que t'es en train de dire.
Oui, absolument. Oui. Faut que tu travailles. Ah, mais en même temps, c'est sûr que si t'es capable de mesurer la performance ou la mobilisation, tu fais, les employés, tu leur donnes la liberté qu'ils veulent avoir, là. Un employé qui rentre à 10 heures, mais qui est super performant, tu le laisses faire. Moi, je suis d'accord avec ça. Mais ce que je te dis, c'est qu'en moyenne, si t'es pas capable de mesurer la performance et la mobilisation, tu vas te faire avoir. Tu vas te faire avoir, c'est une
le scénario idéal, là, tu travailles 4 jours par semaine, t'es en télétravail, puis en plus, tu prends ta retraite à 55 ans. Hein? C'est pas beau, ça?
Oui,
c'est comme si tu gagnais le boulot.
Luc, ce que je comprends, on devrait être déjà à la retraite, c'est ça?
Ben, ça fait longtemps, nous.
On est exposé, on se demande ce qu'on fait ici.
Qu'est-ce qui s'est passé, là?
Merci, on va s'arrêter là-dessus. Bonne journée. On n'a pas la semaine de 4 jours, on a l'émission de 4h30. Fait que, tu sais, on va naviguer avec ça.
C'est 23.